merci d'être à l'écoute de RFI. Il est 1h à Paris.
Mathis Limano.
À la une de ce nouveau journal, dernières heures de campagne aux États-Unis avant l'ouverture des bureaux de vote. L'Amérique doit se choisir un nouveau président entre deux candidats que tout oppose. En début de journal, on fait le bilan de la campagne de Kamala Harris, elle qui a repris le flambeau après l'abandon de Joe Biden. En Espagne, on recherche toujours les disparus après les inondations meurtrières et sur les réseaux sociaux, les comptes complotistes s'en donnent à cœur joie, on vous explique. Et puis la mort d'une légende de la musique américaine, Quincy Jones, l'ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra. Il s'est éteint à l'âge de 91 ans.
RFI.
Dernières heures de campagne de la présidentielle américaine. Donald Trump se démultiplie dans les états clés. Il est attendu dans le Michigan après avoir sillonné la Caroline du Nord et la Pennsylvanie, l'état du Nord-Est où Kamala Harris se concentre en ce moment même toutes ses forces. Elle est attendue pour son dernier meeting à Philadelphie. De nouvelles stars devraient lui apporter son soutien, Lady Gaga, Ricky Martin ou Oprah Winfrey. Entrée en campagne mi-juillet après le retrait de Joe Biden, Kamala Harris a dû mener une campagne express, convaincre son camp qu'elle n'était pas qu'une remplaçante et ratisser le plus large possible dans l'électorat américain. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, quel bilan tirer de sa campagne? Alexis Buisson, journaliste indépendant et auteur de Kamala Harris, la biographie, a suivi les derniers mois de la démocrate sur le terrain aux côtés des électeurs.
Elle a beau avoir une longue carrière politique, les électeurs américains dans leur ensemble ne la connaissaient pas bien. Contrairement à peut-être l'image qu'on peut s'en faire à l'étranger, les Américains ne suivent pas trop la politique et s'en détournent de plus en plus. Kamala Harris s'est heurtée à ce problème-là de devoir se présenter ou se représenter. Donc je pense qu'elle a fait le maximum en très peu de temps. Elle a levé des sommes pharaoniques d'argent qu'elle a utilisé pour ouvrir des bureaux de campagne, pour mobiliser des volontaires, etc. Donc, il y a clairement eu un enthousiasme énorme autour de sa candidature. Mais est-ce que ça sera suffisant pour battre Donald Trump, qui est quand même, lui aussi, à sa manière, un personnage sous-estimé de la vie politique américaine? Eh bien, on verra effectivement dans quelques jours.
Un tiers des électeurs a déjà voté en anticipé, à l'image de la candidate démocrate dimanche. « Mon bulletin est en route pour la Californie », a annoncé Kamala Harris. Donald Trump, lui, votera en personne mardi près de sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le monde entier a les yeux rivés sur l'élection américaine la plus indécise de l'histoire, notamment dans les plus hautes institutions internationales. L'OTAN devra rester unie, quel que soit le vainqueur, a lancé son chef Mark Rutte. Un message qui résonne dans un pays qui voudrait intégrer l'alliance militaire, l'Ukraine. Kiev qui retient son souffle. Une victoire de Donald Trump serait synonyme de coupe dans l'aide militaire de Washington. Et la chef de la diplomatie allemande à Kiev, justement, ce lundi, 8e déplacement dans le pays pour Annalena Baerbock pour tenter de rassurer les Ukrainiens, alors que Kiev reproche à ses alliés occidentaux leur manque de réaction face aux renforts nord-coréens arrivés en Russie. Ils sont 11 000 soldats de Pyongyang déployés près du front, selon l'Ukraine. Le pays qui continue de perdre du terrain, plus de 600 km² pour le seul mois d'octobre, le plus gros gain mensuel depuis mars 2022 pour le Kremlin. Autre conflit au Proche-Orient où les belligérants surveillent de très près l'élection américaine. Discussion productive au Caire entre le Hamas et le Fatah, les deux principales organisations politiques palestiniennes. Objectif, la création d'un gouvernement de consensus national entre les deux formations rivales. Une réunion positive et franche, a affirmé Oussama Abdan, haut responsable du Hamas. La guerre qui se poursuit à Gaza était bien sûr au centre des discussions. L'hôpital Kamal Adwan, dernier en service dans le nord de l'enclave, subit de violents bombardements, indique le ministère de la Santé gazaoui. RFI, il est 1h04 en Espagne, le pays qui compte ses morts, au moins 217 après les inondations tragiques dans la région de Valence. Bilan amené à s'alourdir selon les autorités. Les secours recherchent encore des centaines de disparus. Et à la tragédie s'ajoutent les infox, les fausses informations. Sur les réseaux sociaux, certains comptes complotistes exploitent la catastrophe pour faire du clic. Ils affirment notamment, à tort, que ces intempéries ont été créées par l'homme. Une théorie complotiste qui s'appuie sur la publication d'images d'une centrale électrique flottante accusée de pouvoir provoquer des inondations. Mais après vérification, cette installation en mer n'a strictement rien à voir avec la catastrophe. Grégory Genévrier et Olivier Four.
La vidéo a commencé à circuler juste après les inondations. Un mystérieux navire aurait été aperçu près de Valence. Commentaire en espagnol, une centrale électrique en mer, ce bateau est arrivé mercredi, il est rempli d'antennes. À y regarder de plus près, ce ne sont pas des antennes, mais des cheminées. Après vérification, la vidéo voix a déjà été publiée le 25 septembre 2024 sur TikTok, soit plus de 3 semaines avant les inondations en Espagne. Et la scène a été tournée au large des îles Canaries, à près de 2000 km de Valence. Reste que cette vidéo, trompeuse, a cumulé plus de 5 millions de vues rien que sur X. Grâce à une recherche par image inversée, nous avons pu établir que le mystérieux navire appartient en fait à une société turque spécialisée dans la production d'énergie, Karadeniz Powership, une barge qui produit du courant, mais qui ne peut pas générer des inondations, contrairement à ce qu'affirment certains internautes. Comme à chaque catastrophe naturelle, un projet scientifique américain vieux de 30 ans refait surface, le programme d'études des couches hautes de l'atmosphère ARP, expérimentation accusée à tort de changer la météo et qui cristallise à tous les coups les fantasmes complotistes.
Et dimanche, la colère a littéralement explosé dans la rue. Le Premier ministre Pedro Sanchez et le roi Felipe VI, la population les a accueillis par des insultes et jets de boue alors qu'ils étaient en déplacement dans la région de Valence. Et si l'agence météorologique espagnole a officiellement mis fin à l'alerte précipitation dans cette région, l'inquiétude s'est déplacée quelques 350 km plus au nord, à Barcelone, placée en alerte rouge. Des pluies torrentielles ont entraîné de nombreuses annulations de vols à l'aéroport catalan. En bref, ce tir de missile balistique de la Corée du Nord, il y a quelques instants, annonce de Séoul. Il a atterri dans la mer du Japon et ce, 5 jours après le tir d'un missile balistique intercontinental, présenté par Pyongyang comme le plus avancé de l'arsenal nord-coréen. Dans ce contexte de tension en Asie-Pacifique, l'Indonésie et la Russie ont lancé leurs premiers exercices navals conjoints ce lundi. Une première qui s'inscrit dans le cadre de la stratégie du nouveau président indonésien Prabowo Subianto. Ce général, ex-ministre de la Défense et partisan d'une politique non alignée sur la scène internationale, que détaille Alban Siasia, directeur de la société de conseil dans la sécurité PT Semar Sentinel à Jakarta.
Ce type d'exercice correspond totalement à l'orientation politique indonésienne, qui est celle d'un pays non aligné. Et ça fait sans doute partie de cette volonté de jouer un rôle en tant que puissance moyenne d'équilibre sur l'échiquier des relations internationales. Il faut savoir que du côté indonésien, il y a cette perception des choses en se disant bon, c'est très pragmatique, quel est l'intérêt de l'Indonésie? Et à l'heure actuelle, apparemment, ça serait d'avoir cette relation avec la Russie, avec laquelle il y a eu des discussions sur différents aspects de la coopération, notamment dans le cadre de l'énergie et des investissements qui pourraient avoir lieu en Indonésie. Quand on voit la façon dont la Russie se comporte de façon stratégique sur le front ukrainien, on peut se poser la question de quel est l'intérêt pour l'Indonésie. Est-ce qu'on n'est pas plutôt là dans un exercice qui va être très limitant et limitatif en termes opérationnels et qui va plutôt pousser, on va dire, les deux pays à cocher une case dans le cadre de leur coopération? En tant que tel, je pense qu'on n'est plus sur une coopération qu'on pourrait qualifier peut-être de façade, mais qui fait parler et qui doit faire parler et faire réfléchir, mais qui ne va pas apporter grand-chose à l'Indonésie.
Alban Siasia, directeur de la société de conseil en sécurité PT Semar Sentinel à Jakarta. C'était l'une des dernières légendes de la musique américaine, Quincy Jones, l'ancien producteur de Michael Jackson et de Frank Sinatra, est décédé à l'âge de 91 ans. La presse du monde entier salue ce soir l'œuvre unique et gigantesque de ce génie musical, trompettiste de jazz, producteur et surtout arrangeur, c'est-à-dire qu'il ajoutait toutes les petites touches qui font sortir du lot certains morceaux. Joe Farmer, le producteur de l'émission L'épopée des musiques noires sur notre antenne, revient sur l'éclectisme musical de Quincy Jones.
Quand on est jazzman à l'origine, on a déjà le sens de l'improvisation. C'est-à-dire qu'on est obligé d'écouter les autres pour pouvoir avancer, pour pouvoir créer quelque chose, pour pouvoir être pertinent dans son interprétation. Et Quincy Jones, ayant d'abord été un interprète à la trompette, il était obligé d'écouter les autres. Ensuite, on peut dire que son éclectisme est né à la fois de son flair. Il a vraiment eu le talent d'avoir toujours un coup d'avance sur tout le monde. Quand il fait Soul Bossa Nova, c'est un an avant The Girl from Ipanema de Stan Getz et Astrud Gilberto. Il avait ce sens absolument inné de l'écoute, du partage, de l'éclectisme et une psychologie véritable pour diriger des musiciens et les guider vers ce qui pourrait révéler leur talent.
Là, vous écoutiez Joe Farmer, le producteur de l'émission L'épopée des musiques noires sur RFI. Il revenait sur l'éclectisme musical de Quincy Jones, qui nous a quittés donc à l'âge de 91 ans. RFI, il est 1h10 ici à Paris. Ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi.